Kairoua, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 2 mai 2023. Bonjour à toutes et à tous, en direct de Washington, Idrissa Sedoudia. Tout d'abord, les titres. L'ONU redoute un exode massif du Soudan où les combats font rage malgré une prorogation de la trêve. Au Burkina Faso, libération de l'activiste Wayne Kouliré, Charles Sawadogo, interpellé pour intelligence avec l'étranger. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko affirme avoir été visé par un gaz toxique mortel, accusant les forces de l'ordre d'avoir tenté de l'assassiner. Tir de roquettes de gaz de Gaza vers Israël après la mort d'un Palestinien en grève de la faim. 20 000 combattants russes tués en Ukraine depuis décembre, selon la Maison-Blanche. Le président américain Joe Biden assure son homologue philippin Ferdinand Marcos Jr. de son soutien indéfectible en pleine poussée de tensions avec la Chine. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Au Soudan, les violents combats continuent malgré l'annonce d'une prorogation de la trêve. Selon les Nations Unies, les affrontements pourraient inciter plus de 800 000 personnes à fuir le pays. Le point avec Michel Joseph.
Selon les Nations Unies, les combats entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan et les forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo, dit Emeddi, pourrait pousser à la fuite plus de 800 000 personnes. La nouvelle trêve de 3 jours, décrétée par les deux belligérants, n'y a rien changé. Martin Griffiths, chef de l'agence humanitaire onusienne, estime que la situation a atteint un point de rupture avec des pillages qui ont épuisé les stocks des agences humanitaires. Le directeur régional de l'OMS, Ahmed Al-Mandari, dit que seuls 16% des hôpitaux de Khartoum opèrent à pleine capacité. Les autres ont été bombardés, occupés par des belligérants ou bien n'ont plus de personnel. À Khartoum, le piège se referme sur les habitants qui restent barricadés chez eux, essayant de survivre malgré les pénuries de nourriture, d'eau et d'électricité, à la merci des balles perdues qui transpercent parfois les murs et les fenêtres. Sur le plan diplomatique, la Ligue arabe profondément divisée doit reprendre ce mardi ses discussions. Les Émirats arabes unis, alliés du général Daglo, ont annoncé avoir appelé le chef de l'armée. Riyad veut convoquer l'Organisation de la coopération islamique après avoir reçu un émissaire du général Burhan. L'Égypte, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, les trois pays les plus impliqués dans ce conflit, n'ont jamais voulu voir une révolution démocratique dans le monde arabe.
Au Burkina Faso, libération hier du célèbre lanceur d'alerte Wayne Kouliré, Charles Sawadogo, interpellé et soupçonné d'intelligence avec l'étranger, après 4 jours de garde à vue selon des proches et un porte-parole d'un collectif de journalistes, activistes et personnes influentes de la société civile dont M. Sawadogo est membre. Les charges retenues contre lui ont été abandonnées, a dit ce porte-parole Haruna Louré. On le soupçonne d'avoir perçu de l'argent de l'étranger pour déstabiliser la transition, a expliqué un de ses proches, précisant que son domicile a été perquisitionné et ses téléphones saisis. Haruna Louré voit dans l'arrestation de M. Sawadogo une cabale vis-à-vis de toutes les voix qui essaient de s'opposer, de dénoncer la malgouvernance. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko a affirmé lundi que des analystes de laboratoires étrangers ont révélé ce qu'il a appelé le caractère toxique et mortel du produit qui, selon lui, lui a été aspergé mi-mars par les forces de l'ordre qu'il accuse d'avoir tenté de l'assassiner. Le point avec Lionel Gahima.
Monsieur Sonko, candidat à la présidentielle de 2024, avait, mi-mars, déclaré s'être senti mal à cause d'un gaz lacrymogène envoyé, selon lui, par les forces de l'ordre lors de son transfert forcé vers le tribunal de Dakar, où se tenait un procès en diffamation contre le ministre du Tourisme, Man Bai Niang, reprogrammé le 8 mai après plusieurs renvois. L'opposant avait dit, après cet incident, avoir passé 5 jours dans une clinique privée de Dakar pour des soins. Il avait indiqué que des prélèvements avaient été faits sur ses habits et envoyés dans 2 laboratoires hors du Sénégal et dans 2 pays dont la France pour une expertise toxicologique. Les analyses ont conclu à la présence d'un gaz utilisé comme un anti-émeute, a dit M. Sonko, qui s'est exprimé en français puis en Wolof. C'est un produit qui présente une toxicité et qui peut provoquer une mort immédiate, une intoxication, une infection cutanée, une irritation oculaire et des voies respiratoires, a-t-il ajouté, se fondant selon lui sur des avis des experts. L'ensemble des éléments sont encore dans un laboratoire et bien gardés. Le juge pourra écrire au laboratoire pour une contre-expertise. Il y a eu une tentative d'assassinat. Je considère que c'était prémédité, a poursuivi M. Sonko, qui avait annoncé la semaine dernière une plainte en rapport avec cette affaire. Le porte-parole du gouvernement sénégalais, le ministre du Commerce Abdou Karim Fofana, avait le 26 avril démenti des allégations de M. Sonko qui, selon lui, accuse les forces de l'ordre sans en apporter la preuve. Même dans les pires dictatures, on n'empoisonne pas les opposants en direct sur les téléphones et les médias, avait-il écrit sur Twitter.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les services de renseignement américains estiment que 20 000 combattants russes ont été tués en Ukraine depuis décembre. C'est ce qu'a dit un porte-parole de la Maison-Blanche qui précise que 80 000 autres ont été blessés au combat. Abdulrahman Dia.
John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, a précisé que la moitié des morts appartenaient au groupe militaire privé russe Wagner et étaient pour la plupart d'anciens prisonniers jetés dans les combats à Bakhmout dans l'est de l'Ukraine, sans entraînement ni commandement militaire suffisant. L'officiel américain conclut que l'offensive de la Russie s'est retournée contre elle. Il a en revanche refusé de se prononcer sur les pertes subies par l'Ukraine, soutenue par une coalition occidentale animée par les États-Unis. C'est à eux qu'il appartient d'en parler. Ils sont les victimes, la Russie est l'agresseur, a-t-il expliqué. La plupart des combats en Ukraine ces dernières semaines se sont concentrés sur la région orientale du Donbass, en particulier sur la ville de Bakhmout. Les Russes ont très progressivement avancé dans cette cité industrielle largement détruite qu'ils affirment contrôler à hauteur d'environ 80%.
Des roquettes ont été tirées ce matin depuis la bande de Gaza vers Israël après l'annonce de la mort en détention en Israël de Khader Adnan, un haut responsable du mouvement djihad islamique qui était en grève de la faim depuis plus de 80 jours. Selon l'armée israélienne, 3 roquettes avaient été tirées au total. Elles sont tombées dans des terrains vagues. L'administration pénitentiaire israélienne a annoncé dans un communiqué la mort d'un prisonnier affilié au djihad islamique, retrouvé inconscient dans sa cellule, puis hospitalisé. Le djihad islamique et le club des prisonniers palestiniens ont, eux, confirmé à l'AFP la mort de Khader Adnan à l'âge de 45 ans. Le président américain Joe Biden, qui cherche à consolider ses alliances en Asie et dans le Pacifique, a assuré hier le président philippin Ferdinand Marcos Jr. de son soutien indéfectible en pleine poussée de tensions avec la Chine. Nathalie Barge.
Nous faisons face à de nouveaux défis et je ne pourrais rêver de meilleurs partenaires que vous, a dit Joe Biden en recevant son homologue philippin Ferdinand Marcos dans le bureau ovale. Monsieur Biden a affirmé l'engagement indéfectible des États-Unis pour la défense des Philippines, y compris en mer de Chine méridionale, et a promis de soutenir la modernisation de l'armée philippine. les États-Unis prévoient de transférer des avions militaires aux Philippines et de les aider à renforcer leur flotte de guerre. Ferdinand Marcos a souligné que son pays se trouvait dans la région la plus compliquée aujourd'hui sur le plan géopolitique. Il est donc tout naturel que les Philippines se tournent vers le seul pays auquel elles sont liées par un traité, dans un contexte de tension en mer de Chine méridionale, a-t-il estimé, en référence à l'accord de défense mutuelle qui lie les deux pays depuis 1951. Le 23 avril, des bateaux chinois et philippins ont failli entrer en collision à environ 200 km de l'île philippine de Palawan. Cet incident est le dernier en date d'une longue série entre les deux pays qui se disputent la souveraineté de plusieurs îles en mer de Chine méridionale. Les États-Unis et les Philippines viennent d'achever leur plus grande manœuvre militaire commune dans la région. Par ailleurs, Manille va autoriser l'armée américaine à utiliser 4 bases militaires philippines supplémentaires, dont des installations navales situées près de Taïwan.
Sur le plan intérieur, le président démocrate Joe Biden a parlé lundi avec le chef républicain au Congrès, Kevin McCarthy, et l'a invité à la Maison-Blanche le 9 mai, selon un communiqué de l'exécutif américain, une source proche précisant que la discussion portait sur le plafond de la dette. Les États-Unis pourraient se retrouver en défaut sur leur dette publique dès le 1er juin si aucun accord n'est trouvé entre républicains et démocrates afin de relever ce plafond, a averti lundi la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen. Une tempête de poussière dans le nord des États-Unis a provoqué hier un immense carambolage sur l'autoroute qui relie Saint-Louis et Chicago, faisant au moins 6 morts et une trentaine de blessés, ont annoncé les autorités. Des images de dévastation montrent les carcasses fumantes de dizaines de véhicules, dont de longs camions entassés les uns derrière les autres, d'autres voitures stoppées dans l'herbe sur le bas-côté, le tout dans une atmosphère saturée de poussière ocre. La Minute Éco, Manit Talani.
Des centaines de syndicalistes ont manifesté lundi au Maroc, à Rabat et à Casablanca lors de la fête internationale des travailleurs pour protester contre la détérioration du pouvoir d'achat et la poussée inflationniste marquée par l'envolée des prix des denrées alimentaires. Les syndicats exigent le plafonnement des prix des carburants, la réduction des taxes sur les produits de première nécessité et la baisse de l'impôt sur le revenu afin de soutenir le pouvoir d'achat. L'Égypte a signé son plus important programme d'investissement avec le Japon pour soutenir son plan de développement des transports, selon un communiqué publié dimanche par le gouvernement égyptien. Le projet, évalué à 734 millions de dollars, va contribuer au financement de l'expansion du métro du Caire, un tronçon de 30 km qui doit relier la ville égyptienne du 6 octobre au plateau de Gizeh. L'Égypte a signé son plus important programme d'investissement avec le Japon pour soutenir son plan de développement des transports, selon un communiqué publié dimanche par le gouvernement égyptien. Le projet, évalué à 734 millions de dollars, va contribuer au financement de l'expansion du métro du Caire, un tronçon de 30 km qui doit relier la ville égyptienne du 6 octobre au plateau de Gizeh.
Merci Nanit. À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Basketball Africa League pour commencer, dos au mur. City Oilers et Seydou Legacy Athletic s'affrontent.
Oui, les Ougandais de City Oilers et les Guinéens de Seydou Legacy Athletic Club, deux défaites en deux sorties pour les uns et les autres jusqu'ici, s'affrontent dans une opération relance. Juste après, toujours ce soir, les hôtes égyptiens d'Al Ahly voudront enchaîner une troisième victoire devant les Sud-Africains de Cape Town Tigers. Pour rappel, dimanche, les Angolais de Petro de Luanda ont presque assuré leur billet pour les playoffs après leur troisième victoire en trois matchs. Cette fois-ci, ce sont les Sud-Africains de Cape Town Tigers qui en ont payé les frais, battus 87 à 48.
Football suite ce mardi des matchs de la CAN des moins de 17 ans.
Le groupe A effectue sa deuxième sortie ce soir, à suivre le choc entre le pays hôte, l'Algérie et le Sénégal, tous vainqueurs lors de leur premier match. Dans cette même poule, la Somalie et le Congo voudront se relancer après leur défaite respective d'entrée. Hier, le groupe C a bouclé les matchs de la première journée avec la seule rencontre entre le Mali et le Burkina Faso, remportée par les Maliens 1-0. Le second qui devrait opposer le Cameroun au Soudan du Sud a été annulé. La CAF a disqualifié les Soudanais, dont 4 de leurs joueurs ont été rattrapés par le test IRM mis en place pour lutter contre la fraude sur l'âge.
Merci, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Seloudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Côte d'Ivoire, le mouvement des générations capables, avec à sa tête l'ex-première dame Simone Gbagbo, était du 29 au 30 avril à Boaké, pour la célébration de la première édition de la Fête des Libertés. Simone Gbagbo a demandé pardon aux Ivoiriens tout en plaidant pour le retour au pays de Guillaume Soro, l'ancien Premier ministre qui avait dirigé une rébellion depuis Boaké. Simone Gbagbo a aussi demandé le report des élections municipales et régionales prévues pour le mois de septembre. Aïcha Diarra, notre correspondant à Boaké, a tendu son micro à des Ivoiriens pour leur réaction.
Raison qu'elle n'avait pas foulé la terre de Boaké. Simone Gbagbo l'a signifié dans son discours. Ce choix n'est pas fortuit parce que cette ville fut la capitale de la rébellion qui a secoué la Côte d'Ivoire en 2002. Alors, pour l'âme de la Côte d'Ivoire, il faut donc que le pardon parte de cette ville. Un pardon appréhendé de différentes manières par les Ivoiriens. Se relaxant sous son hangar en ce moment de chaleur à Boaké, Marc Koné apprécie tout d'abord le choix porté sur la ville.
Sa visite à Boaké, pour ma part, est salutaire parce que, comme le dirait l'autre, la Côte d'Ivoire ne se limite pas à une seule zone. Et longtemps qu'elle est venue ici. Donc c'est toujours bon de venir, surtout dans son élan de pardon, de venir en visite à Boaké. C'est toujours bon de demander pardon, mais le pardon doit être sincère. Donc toute fois qu'il y a pardon sincère, je pense que c'est un bon pas et ça doit être approuvé et partagé par tous les Ivoiriens.
Assis spatialement devant un moulin attendant son tour pour voir ses maniocs broyés, Kofi Aya voit en cette demande de pardon une opportunité pour une paix durable en Côte d'Ivoire.
Je travaille pour quelqu'un, j'ai plus manioc. Quand on finit, on vient piler. Donc si je gagne quelqu'un pour m'aider, pour faire pour moi-même aussi, ça m'arrange aussi. Par exemple, où je suis là, mais je suis fatigué. S'il n'y a pas la paix, est-ce que quelqu'un peut venir faire? Tout le monde peut faire erreur. Moi-même, je peux faire erreur. S'il est venu demander pardon, il va accepter. Lui aussi, nous, on demande pardon, il n'a qu'à accepter. On va faire comme avant, et puis le pays, ça s'avance.
Parlant de report des élections et sa demande de pardon, Salif Dabo, opérateur économique à Boaké, y voit un manque de sincérité de la part de Simone Gbagbo.
Pour ma part, je pense que le pardon de Simone Eve n'est pas sincère. Et là, je souhaite ne pas trop m'attarder là-dessus parce que réellement, nous avons besoin du pardon. Et ça, au moins, elle l'a dit dans sa bouche. Donc, en ce qui concerne le report des élections, pour ma part, je pense que ce n'est pas honnête. Moi, je pense que pour une personne honnête, ne peut pas mettre la CEI en cause parce que pourquoi les partis politiques, la société civile, chacun a son représentant à la CEI.
Dans son discours, la présidente du MGC a plaidé pour le retour de Soro Guillaume en Côte d'Ivoire. Aïcha Diarra à Boaké pour VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, l'avenir des travailleurs dans une économie mondiale en perpétuelle mutation. La fête internationale du travail a été célébrée cette année dans un contexte post-Covid qui a suivi 3 années de pandémie et ont durement affecté le monde de l'emploi. L'OIT appelle à une mobilisation pour remodeler les politiques économiques, sociales et environnementales pour un avenir plus stable et plus équitable. Quel avenir pour le marché du travail? Quel rôle pour les syndicats avec la baisse de l'emploi salarié? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com et en rediffusion samedi et dimanche.
Retour sur la célébration du 1er mai hier en Afrique. En Guinée, par exemple, les travailleurs ont célébré la fête du travail entre collègues tout en pensant à leurs droits qui restent à améliorer, nous dit de Conakry Zakaria Camara.
Devant des centaines de travailleurs guinéens mobilisés à Conakry, le Premier ministre recommande le dialogue.
L'ouverture prochaine de nouvelles négociations sera une opportunité de faire la revue des actions et échanger sur les nouveaux points que nous venons d'entendre ici, qui avant tout sont légitimes pour les travailleurs.
Le mouvement syndical guinéen a placé cette célébration sous le signe du dialogue social pour une justice sociale durable. Le mot « justice » n'est pas fortuit pour le secrétaire général de la CNTG, Confédération nationale des travailleurs de Guinée, qui a voulu attirer l'attention du gouvernement sur l'inégalité sociale. Amadou Diallo.
Le fossé entre les nantis et les pauvres prend chaque jour des proportions inquiétantes malgré un potentiel économique des plus enviés du continent africain. L'inquiétude est davantage grandissante lorsqu'on observe la situation de milieu de jeunes diplômés ou non, condamnés au chômage ou exposés à des formes d'exploitation, à un sous-emploi dans nos villes. Or, cette justice ne peut se réaliser que si les droits des uns et des autres sont pleinement reconnus.
La fête internationale du travail arrive cette année dans un contexte de menace de grève. Les enseignants contractuels réclament à l'État guinéen 6 mois d'arriérés de salaire. Amadou Magarousso, secrétaire général adjoint du syndicat national de l'éducation.
Ce sont des contractuels qui travaillent depuis la rentrée de classe, ils sont en situation de classe, ils travaillent et l'État n'a payé qu'un seul mois. Donc à ce jour, l'État doit 6 mois de salaire contractuel à ces travailleurs-là. Et si le gouvernement ne nous prend pas au sérieux en tenant compte des points de revendication ou en engageant les enseignants contractuels, nous passerons à la vitesse supérieure. Nous allons plutôt déposer un avis de grève.
La sûreté de la vie en Guinée reste une difficile situation pour des travailleurs dont certains, pour faire face à la précarité, réclament une revalorisation de leur salaire. Zakaria Kamara pour VOA Afrique Conakry.
Et au Burkina Faso, la fête du travail a eu lieu dans un contexte particulier avec la crise sécuritaire. Le gouvernement de transition a fait adopter le mois dernier une loi dite de mobilisation générale et de mise en garde. Certaines centrales syndicales préviennent que cette loi ne saurait les empêcher de s'exprimer et d'exercer leurs droits. Yacouba Ouédraogo a joint à Ouagadougou Ernest Ouédraogo, président des centrales syndicales.
Ce 1er mai 2023 est très important pour nous quand même. Parce que nous vivons une situation sécuritaire très, très, très mauvaise. Il y a aussi que nous avons également un pouvoir en place qui n'est pas issu des urnes, mais un pouvoir qui tente de se maintenir à travers cette décision. Donc, nous sommes obligés de regarder et de donner de la voix.
Quand vous dites un pouvoir qui tente de se maintenir par certaines décisions, quel genre de décision, par exemple?
Par exemple, nous avons une décision aujourd'hui qu'ils ont appelée mobilisation générale et mise en garde, qui sont des dispositions bien sûr, qui existent au niveau de nos constitutions, mais qui n'ont jamais été activées. Et qu'aujourd'hui, en l'activant, le pouvoir se donne, s'arrose vraiment tous les droits de piétiner toutes nos libertés sous prétexte d'insécurité.
Est-ce que vous l'avez fait savoir au gouvernement?
Nous dénonçons ces manières de faire et nous attirons l'attention des décideurs à travers des dénonciations, mais il n'est pas exclu que si le pouvoir continue, accentue la restriction de nos libertés, que nous donnons toujours de la voix et que nous manifestons à travers plusieurs manières. Ça peut être une marque, ça peut être un sitting, ça peut être tous les moyens syndicaux.
Alors justement, depuis un certain temps, vous ne revendiquez plus, je vais parler de l'unité d'action syndicale. Est-ce que ça, c'est le fait du pouvoir?
Non, depuis un certain temps, nous ne revendiquons pas, parce que aussi nous avons pris conscience qu'en dérangeant le climat social, ça empêche le gouvernement, les décideurs de se recentrer sur la question de sécurité. Et si au-delà de tout ça, ça doit être pris comme étant un acquis ou un abandon de nos droits et tout, nous allons donner de la voix.
Est-ce que vous ne vous sentez pas libre de vous exprimer ou de revendiquer?
Oui, nous sentons qu'il y a des velléités de restriction de nos libertés à travers des prises de décisions, à travers l'activation de la loi sur la mobilisation générale et la mise en garde, parce que là, ça donne libre cours au pouvoir en place de pouvoir prendre des décisions de restriction de liberté, d'expression et de démocratie.
Est-ce que cette loi vous empêche clairement d'exprimer votre liberté de revendiquer ou de manifester?
Non, dans tous les cas, nous allons continuer à revendiquer plus de liberté et plus de démocratie. Maintenant, c'est vrai que le pouvoir en place pourra utiliser la loi pour faire de la répression et dire qu'il est dans la légalité.
Ce qui ne serait pas faux.
Oui, mais ce que nous allons refuser.
Ernest Ouedraogo, président des centrales syndicales du Burkina. Enfin, au Nigeria, le 1er mai a été marqué par un rassemblement géant à Abuja, la capitale fédérale, pour attirer l'attention du nouveau président élu sur les nombreux défis auxquels des millions de travailleurs de la fonction publique sont confrontés. Reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
Ils étaient des centaines de milliers de travailleurs venus au stade Igosque d'Abuja pour ce traditionnel rendez-vous du 1er mai. L'occasion de manifester et de faire des doléances au pouvoir sur leurs conditions de travail, d'exiger des augmentations de salaire et plus d'emplois. Adams, fonctionnaire d'État.
Ils doivent s'assurer que les salaires augmentent. L'économie du Nigeria n'est pas vraiment bonne par rapport à ce que nous percevons comme salaire. Au moment où vous percevez votre salaire à la fin du mois, cela ne vous suffit pas. Ils devraient donc se pencher sur notre source de revenus. Ils devraient l'améliorer pour nous afin que nous puissions avoir une vie meilleure.
Ce rassemblement est le premier du genre du front commun auquel fera face le nouveau gouvernement qui doit être investi ce mois-ci. Un front qui permettra aux syndicats nigériens de mieux porter leurs revendications. Le prix des produits de première nécessité, des loyers, de l'essence, de l'électricité, la précarité de l'emploi, le chômage des jeunes. Écoutons Salako Kayode du mouvement de solidarité des jeunes travailleurs.
Avec l'inflation et la situation économique du Nigeria, les conditions de travail ne sont pas satisfaisantes. Les travailleurs souffrent car le salaire minimum actuel ne pourra jamais répondre aux besoins de quelqu'un compte tenu du niveau de l'économie.
Les principales centrales du pays, qui représentent le puissant mouvement syndical du Nigeria, ont réussi à mobiliser leurs membres pour faire entendre leur voix. Makodi Daniel, syndicaliste, dénonce ce qu'il considère comme des privilèges accordés aux nantis de la société.
Nous devrions avoir un gouvernement voté par les travailleurs. Nous ne pouvons pas permettre aux membres du club des milliardaires de venir gouverner la société pour nous. Ils ne la gouverneront pas dans notre meilleur intérêt.
Cette année, la fête du travail est célébrée au Nigeria à quelques jours de l'investiture du nouveau président Ahmed Bola Tinubu. Et les travailleurs attendent beaucoup de la nouvelle administration. Selon certaines estimations, la population active au Nigeria atteindrait plus de 66,8 millions de personnes en 2022. Le taux de chômage était alors autour de 33%. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja.
L'actualité au quotidien sur VOA Afrique, c'est Le Monde aujourd'hui. À 5h30 et 7h30 GMT, démarrez votre matinée par une bonne dose d'informations crédibles, fiables et objectives. Et rendez-vous le soir à 17h30, 18h30 et 19h30, temps universel, pour ne rien manquer des grands sujets du jour. Reportage, analyse, la rédaction de VOA Afrique à Washington et ses correspondants vous informent, vous expliquent et vous font vivre l'actualité en Afrique, aux États-Unis et dans le monde. Politique, économie, société, sport, le monde aujourd'hui, c'est votre édition d'information sur VOA Afrique. À ne pas manquer.
Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme, mais déplacement de populations et influences étrangères. VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h en temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales.
Oh.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Segudia au micro et à la mise en onde Lionel Ronanira Gahima, à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.